le monde un immense hôpital. Mon ami, bien-aimé, dit Jésus, donnons ensemble un coup d'œil au monde. Ne te semble-t-il pas un immense hôpital, malade du corps, de l'esprit, du cœur, de l'âme? Et toi, comment peux-tu rester indifférent au milieu de tant de mal, de tant de douleurs? Aide-moi, dit Jésus, je t'en prie, penche-toi sur ceux qui souffrent par la puissance de la prière. Relève ceux qui sont tombés, aide ceux qui sont sur le point de tomber. Cours au secours de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui meurent. Ne t'abandonne pas à toi-même. Ne vois-tu pas que tout le monde a besoin de toi? L'indifférence est une faute, c'est de l'égoïsme. Ne pas te soucier de ce qui arrive autour de toi te rend passible du châtiment. Élargis ton cœur. Ne vois-tu pas combien le monde a besoin d'amour? L'amour est plus fort que la mort, parce qu'il lui survit. Il est plus fort que la douleur, parce qu'il la vainc. L'amour console, les répare, convertit, donne force, stimule au bien, triomphe du mal. Sème l'amour. Pourquoi restes-tu à discuter devant une bonne action qui pourrait susciter l'amour? Fais-la, ne raisonne pas. L'amour n'aime pas les raisonnements. Les raisonnements viennent de l'intérêt. Mais l'amour ne cherche pas l'intérêt. Il cherche le bien de tous. Vis dans l'amour. Sois fort et généreux par amour. Le monde est grand, mais l'amour l'embrasse tout entier. Essaye de répandre la joie et l'amour dans le petit cercle où tu vis, et puis élargis tes vues. Par la pensée, cours auprès de tous ceux qui ont besoin de réconfort, de joie, d'amour, auprès de tous les malades du monde, et demande à Dieu, qui est pur amour, une étincelle de son feu divin pour tous les hommes de la terre. Ce qui n'est pas possible pour toi est facile pour Dieu. Tu verras quel bien se diffusera du petit cénacle de ton cœur, d'où l'Esprit Saint répandra le feu sacré de l'amour sur le monde tout entier. La vie future. Mon ami, le nouveau mois que tu commences te parlera à travers ces solennités de la vie future qui t'attend là où ta maman du ciel et ta maman de la terre t'ont précédé. Je pourrais te montrer en partie ce qu'est la vision béatifique, pas complètement, car ton corps ne supporterait pas la grandeur de ce que le Père éternel a préparé. Et quand bien même te serait montré le bonheur du paradis, ce bonheur serait incomplet, Dieu étant la joie suprême dont tes yeux ne supporteraient pas la vision pour l'instant. Pierre, Jacques et Jean, qui assistèrent à ma transfiguration sur le mont Tabor, eurent une pâle idée du paradis, si bien qu'ils n'auraient plus voulu interrompre cette céleste vision et ce colloque divin. Paul goûta en partie la joie dont on jouit là-haut, joie qu'il ne sut pas décrire. « Je t'affirme, dit Jésus, pourtant que personne, tant qu'il vit sur cette terre, ne pourra voir dans leur pleine réalité ce que sont les choses admirables que le Père éternel a préparées pour ses élus. Sache qu'en Dieu, tu posséderas tout bien et toute félicité. » Dieu lui-même étant le bien suprême et la suprême félicité. Pense donc souvent à ton point d'arrivée et n'oublie pas qu'à partir de lui commence l'éternité. Une gloire et une joie incommensurables méritent de ta part un effort maximum. Que t'importe si pendant quelques années, toutes celles que tu passes ici, tu as à souffrir? Que t'importe si les gens de ce monde ne te comprennent pas? Quand tu sais toi-même que toute larme sera comptée, toute peine récompensée avec usure, quand le monde, ton petit monde, ne te comprend pas, pense qu'un Dieu t'aime, te comprend, respecte ta liberté, éclaire ton esprit, t'instruit et te veut heureux avec lui pour toujours. Je suis un assoiffé, mon ami. Prépare ton âme à accueillir mes grâces, dit Jésus. Car de la manière dont tu les accueilles et y corresponds dépend ta sanctification. Ta correspondance me contraint à augmenter la dose. Si tu as soif de moi, viens et bois. Moi, je serai heureux de te désaltérer. À celui qui me désire, je me donne avec l'effusion d'un père, d'un époux, d'un frère, d'un ami, qui donne tout et ne demande rien d'autre que l'amour. Moi aussi, dit Jésus, je suis un assoiffé d'amour. Près du puits de Jacob, j'ai demandé à boire à la Samaritaine, et en elle à toutes les Samaritaines du monde. De pécheresse qu'elle était, je l'ai rendue apôtre. Nous avons échangé l'eau qui nous désaltérait. Elle, elle m'a donné son âme, ses péchés, son amour. Moi, je lui ai donné ma grâce et le désir de l'apostolat. Du haut de la croix, j'ai eu soif, et cette soif perdure à travers le siècle. Je m'adresse à tous les hommes et à tous. Je leur demande de me désaltérer. C'est une soif qui ne s'éteindra qu'à la fin des siècles, lorsque la rédemption sera accomplie et que la céleste Jérusalem sera au complet. Mais tant qu'il y aura un homme sur la terre, moi, son Dieu, j'aurai soif de son âme, de son amour et de son salut. Et toi, as-tu soif de moi? Je vous ai dit, bienheureux ceux qui ont soif de justice. Je suis le juste et l'auteur de la justice. Je vous ai dit, bienheureux les purs. Je suis la pureté personnifiée. Je vous ai dit, bienheureux les pacifiques. Je suis celui qui donne la paix. Je vous ai dit, bienheureux ceux qui pleurent, parce que dans mon cœur, tous trouveront le réconfort et le secours. Venez, venez tous à moi, dit Jésus. J'étancherai votre soif des choses du monde. Je vous aiderai à vous élever jusqu'au ciel. Je vous dirai comme il est doux de servir le Seigneur. Venez, donnez-moi votre amour. Je suis un mendiant d'amour. Celui qui m'aime vit en moi et pour moi. Il ne se sent plus le poids de la croix. Celui qui m'aime observe ma loi, qui n'est plus un joug. Celui qui m'aime me suit aussi sur les calvaires, meurt avec moi pour ressusciter avec moi. Aimez-moi, mes chers enfants, je ne vous demande pas autre chose. Approche-toi de moi. Jésus me dit, mon ami, approche-toi toujours de moi avec confiance et amour, mais aussi avec crainte et tremblement, car je suis ton Dieu. Si tu connaissais la grandeur, la puissance, la sagesse de Dieu, tu demeurerais rempli d'un étonnement merveilleux. Cela, tu ne pourras le comprendre tant que tu seras comme emprisonné dans ton corps. Ce n'est qu'avec les yeux spirituels, les yeux de l'âme, qu'il te sera donné de comprendre beaucoup de choses qui maintenant te sont complètement inconnues ou à peine ébauchées. Dans l'attente du jour où, si tu mérites le paradis, tu verras Dieu, applique-toi avec mon aide à le connaître dans toute sa grandeur et sa bonté, pour l'aimer toujours plus et toujours mieux. Désire et aime tout ce qui te parle de Dieu, mais surtout confie-toi à ma maman, la Sainte Vierge Marie, siège de la sagesse, pour qu'elle t'instruise et te révèle mes secrets. Avec son aide, tu pourras faire grandir ta taille spirituelle et atteindre ma taille de fils de l'homme. Je veux t'expliquer ce que j'entends dire. Tu me rejoindras dans la pratique des vertus que j'ai pratiquées sur la terre en tant qu'homme, semblable à toi en tout, excepté le péché. À chaque instant de ta vie, tu peux te demander à savoir avec certitude si ce que tu es en train d'accomplir est bien ou mal, quand moi-même, à ta place, je pourrais accomplir cette même action de la même manière. Demande-toi donc souvent durant la journée, Jésus agirait-il ainsi, penserait-il ainsi, aimerait-il ainsi, parlerait-il ainsi? Si la réponse était toujours affirmative, quelle joie tu me donnerais et avec quelle tranquillité tu pourrais te dire véritable chrétien, mon véritable disciple. Essaye, ce n'est pas difficile, et en te présentant un jour à mon Père dans le ciel, tu pourras lui dire en toute sincérité, « Je suis ton Fils, un autre Jésus-Christ », et lui t'accueillera dans la gloire éternelle. Le véritable amour des dieux. Mon ami, écoute-moi, dit Jésus, n'aie peur de rien, je suis auprès de toi, aime-moi, j'ai un tel désir d'être aimé, et ils sont si peu nombreux ceux qui m'aiment sincèrement. La plupart du temps, beaucoup d'âmes croient m'aimer, Mais à la première épreuve ou à la première contrariété, elle se décourage, pleure, se désespère, et ce qui me fait le plus mal, elle m'abandonne. Ces âmes me cherchent, moi, mais seulement pour leur jouissance spirituelle et pour être à l'abri des peines corporelles. En un mot, elles me cherchent, et même égoïstement, et uniquement pour les profits qu'elles en retirent. L'amour véritable est bien différent, mon ami. Il est comme un don que tu fais continuellement à l'être aimé. Quand, en outre, cet être est ton Dieu, l'amour devient le lien précieux qui unit la créature au Créateur d'une manière sublime, impérissable, de sorte que la mort elle-même ne peut le briser, et toutes les contrariétés, les croix, les maladies et les peines de cette vie ne réussissent pas davantage à l'affaiblir. Vois-tu, mon ami, comme le véritable amour est difficile à pratiquer? Peut-être crois-tu aimer quand, le cœur plein de joie, tu exprimes cette joie par des douces paroles d'affection? Attends un peu. Essaye de te sentir abandonné, calomnié, contrarié, raillé, insulté, et demande-toi si, en de pareilles difficultés, tu te sens heureux d'aimer le Seigneur, bien que tu penses que toutes ces contrariétés, c'est lui qui te les procure ou les permet pour ton bien. S'il en est ainsi, remercie vraiment ton Dieu. Dans ton cœur, il y a le véritable amour. Es-tu heureux de prier et de lui offrir des sacrifices quand ton cœur est plein de ferveur et que ta santé t'est favorable? Attends un peu. Laisse que la ferveur se transforme en froideur. Laisse que tu sois souffrant de la tête aux pieds, comme je le fus moi-même, dit Jésus, sur la croix. Et si malgré cela tu sais dire, Seigneur, je t'aime, remercie-le de tout ton cœur. Tu as le véritable amour de Dieu. Mais écoute-moi encore, dit Jésus. Tu dis que tu aimes Dieu. Rappelle-toi qu'il est présent dans chaque créature, dans le pauvre, dans celui qui souffre, dans l'ami et dans l'ennemi, dans l'inconnu qui passe sur la route, dans ton enfant, dans le prêtre, dans la maman, dans l'ouvrier, et même dans les pécheurs, dans les bons et dans les méchants. Dieu est présent à tout homme de droit parce qu'il l'a créé, parce que l'âme, qui est son souffle vital, est comme une émanation de Dieu. Il est présent car par la rédemption, tous les hommes sont appelés à être ses fils adoptifs, parce que tous sont destinés à vivre avec lui dans la gloire. Eh bien, si tu n'aimes pas l'un d'entre eux, ne fût-ce qu'un seul, tu n'aimes pas Dieu qui est son Père. Tu dois les aimer tous, sans exception, et les aimer, cela veut dire se mettre à leur place, comprendre leurs nécessités, partager leurs douleurs, les aider dans leurs besoins. Les aimer, cela veut dire supporter leurs défauts et, si possible, les aider à se corriger, pardonner les offenses au point d'être humilié et de demander pardon, même s'il te paraît juste que ce soit le tien que l'on sollicite. Aimer est une chose tellement sublime qu'elle te fait oublier toi-même pour l'être aimé. C'est une chose tellement belle et merveilleuse que Dieu seul peut te la donner parce qu'il est l'amour par essence. Demande-lui donc toujours le véritable amour, celui dont ont besoin tous les hommes, parce qu'il est le fondement de tout héroïsme, de toute œuvre méritoire pour la vie éternelle. Il est comme la flamme qui alimente la foi et qui constitue la famille. Il est la mesure du pardon accordé aux nombreuses misères dont les créatures sont compétries, car lui, l'amour, il vous dit: il t'est beaucoup pardonné parce que tu as beaucoup aimé, à condition que cet amour soit véritable et sincère. La famille. Mon ami, écoute-moi bien, dit Jésus. J'ai à cœur de te parler de la famille, cette institution humaine voulue par Dieu, qui est une petite cellule de la société et de l'Église. Je voudrais d'abord te parler de la grande famille humaine, puis de la famille comme vous l'entendez en général, et cela avant de te parler de la famille du peuple des dieux. La famille humaine est répandue sur toute la terre qui a été donnée à l'homme en dotation. La terre devait être un immense jardin où les hommes, créatures raisonnables, composées d'âme et de corps, passeraient leur vie dans la sérénité, en communiquant avec Dieu, qui leur parlait directement. Après une petite épreuve d'humilité, d'obéissance et de fidélité, ils seraient confirmés en grâce. C'est pourquoi, après avoir vécu leur existence terrestre, ils passeraient à la gloire éternelle, dans la vision béatifique de Dieu et dans la jouissance en lui de tout bien. Le péché grave de désobéissance et d'orgueil apporta les bouleversements dans la famille humaine, sema la haine, la discorde, la vengeance, la fatigue, la maladie, la concupiscence et la mort avec toutes ses conséquences. Dieu ne descendit plus pour parler à l'homme face à face. Ce dernier avait peur de lui et ressentait la honte. Mais Dieu parla du milieu du buisson ardent sur les montagnes et par l'intermédiaire de ses prophètes. Dieu aimait l'homme qu'il avait créé par amour et dont il voulait le bonheur de cette vie. Mais la ruine serait irréparable après le péché. Trop grave était l'offense et trop indigne l'offenseur pour qu'il puisse la réparer. Un abîme séparait Dieu de l'homme et, de plus, cet abîme ne pouvait être comblé. La famille de Nazareth. Seul un homme Dieu pouvait être en mesure de réparer l'offense faite à Dieu par une créature. Et je suis venu, moi, le Fils de Dieu, dit Jésus. J'ai revêtu la nature humaine pour pouvoir expier, souffrir et mourir. Je suis venu dans le monde et je me suis choisi une famille. Comment puis-je te parler de ma famille, la famille de Nazareth, celle que tout le monde disait être une famille d'humbles ouvriers? Rien de plus harmonieux, ni de plus divin, rien de plus serein, ni de plus attirant n'a été ni ne sera jamais sur terre que ma famille humaine. Une maman vierge Marie et un époux chaste Joseph. Quand petit enfant et puis plus grand, j'observais les deux saintes créatures qui vivaient auprès de moi, mon cœur se remplissait de tendresse et de joie. Je voyais sur leurs visages la splendeur et la joie des anges. Je sentais leur cœur battre à l'unisson dans leur amour pour Dieu, pour moi, car ils me connaissaient comme vrai fils de Dieu incarné pour tous les genres humains. C'était un paradis de bonté et d'amour que cette humble maisonnette nue et propre où habitait le Seigneur. Oh, si le Seigneur pouvait habiter dans toutes les familles! Il y avait une autre famille à Béthanie, celle de Marie, Marthe et Lazare, où très souvent je me rendais, dit Jésus, pour me reposer et me retrouver parmi des amis. Que de délicatesse et de sincérité, des sentiments avaient mes hôtes, qui soupiraient après ma venue et m'accueillaient dans leur maison avec la joie et le désir avec lequel on accueille une personne à qui l'on pense depuis longtemps et que l'on aime fortement. Ma présence sanctifiait leurs âmes, qui, dans la pratique de la foi et de l'amour, se préparaient à accepter les sacrifices, à accomplir leurs devoirs quotidiens. Les familles modernes. Voici, mon ami, ce qui manque aux familles modernes, la foi qui fait vivre Dieu au milieu d'elles, et l'amour qui, en purifiant les âmes de leurs membres, les rend capables de se sacrifier les uns pour les autres. Parmi les choses merveilleuses créées par Dieu, une des plus belles a été précisément la famille. Je l'ai consacrée, et tandis que je levais le mariage de simple contrat humain qu'il était à la dignité de sacrement, je donnais aux époux la dignité des ministres de ce sacrement, avec la capacité d'augmenter la grâce à chaque bonne action que chacun d'eux accomplirait pour le bien de l'autre et de toute la famille. Comme elles sont rares les familles qui vivent dans ma grâce. Et pourtant, toute la ruine spirituelle et même matérielle qui se produit en elles est due précisément à l'existence du péché et au refus qu'on m'oppose de vivre une vie humaine pénétrée de divin. L'observance des lois divines et humaines donnerait cette sérénité, cette assurance, grâce auxquelles les époux et leurs enfants seraient capables d'affronter n'importe quel sacrifice. On formerait dans les familles ces caractères adamantins capables de retourner le monde, pour ainsi dire, et de s'aimer le bien par leur travail et de porter secours à tous ceux qui sont dans le besoin. Le travail qui, dans les familles malsaines, est considéré avec mépris et auquel on se soumet avec répugnance et au contraire béni et accepté comme un don de Dieu dans les bonnes familles. Même si la fatigue est une peine due au péché, le travail auquel Marie, mon père putatif, Joseph et moi-même, nous avons voulu nous soumettre, le travail a été sanctifié et il est devenu un moyen précieux de bien-être et de joie, ainsi que de sanctification. Bénis soient les familles qui passent la brève journée de leur vie dans la foi, l'amour et l'activité. Elle fructifiera en bonheur et en paix au cours de la vie terrestre et en gloire éternelle dans les cieux.